Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Bienvenue pour votre émission hebdomadaire de débat sur Radio Orient « Et si on en parlait ?». Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu particulière puisque nous avions décidé d'aborder la situation en Algérie. Et en préparant cette émission, et j'imagine que c'est aussi le cas de nos invités, nous ne savions pas que Abdelaziz Bouteflika ne s'engagerait pas et renoncerait à se présenter pour un cinquième mandat. Il renonce donc à se présenter, mais pas à gouverner, puisque son mandat, qui devait s'achever le 25 avril prochain, sera de fait prolongé en raison notamment du report de l'élection présidentielle qui était initialement prévue le 18 avril. Élection reportée, sans aucune garantie que les changements demandés dans la rue par la population algérienne seront au rendez-vous, car à l'origine de cette situation inédite, ce sont bien les semaines de manifestations et de mobilisations, une mobilisation de plus en plus intense depuis le 22 février, qui ont poussé le président Bouteflika à renoncer. Un premier succès donc pour les manifestants et la société algérienne. Mais ce qui s'annonce aujourd'hui, ça n'est pas un départ du pouvoir pour l'équipe en place, c'est un remaniement. Il y a eu un changement de Premier ministre, il y a eu également un vice-Premier ministre nommé alors que ça n'est pas prévu par la Constitution. Donc aujourd'hui, nous assistons à une sorte de révolution de palais. Certains parlent d'une révolution de velours, d'autres d'un printemps démocratique. Nous ne savons pas encore. Aujourd'hui, l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio Benjamin Stora, historien, président du musée de l'histoire de l'immigration, qui n'est pas tout à fait étranger au destin de l'Algérie puisqu'il est né à Constantine, qu'il a donc un lien très fort et un lien également, je dirais, intellectuel puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages référents sur le sujet. On en citera quelques-uns, « La grande guerre et l'oubli »,« La mémoire de la guerre d'Algérie », »,« Appelée en guerre d'Algérie », Les trois exils juifs d'Algérie et de nombreux autres ouvrages qui font que nous avons un grand plaisir de l'accueillir ce matin.
Bonjour.
Bonjour Benjamin Stora. Nous accueillerons également dans cette émission un petit peu particulière l'écrivain et mathématicien algérien Anouar Ben Malek, qui lui est né à Casablanca mais qui a fait ses études à Constantine et qui est fondateur du comité algérien contre la torture et également un auteur prolifique, citons entre autres Nouvelles d'Algérie, Les Enfants de la Balle ou encore Algérie 50. Et enfin, nous accueillerons par téléphone tout à l'heure Rosa Moussaoui, qui est journaliste au quotidien L'Humanité. Alors, Benjamin Stora, je vais tout de suite me tourner vers vous. Vous avez eu déjà plusieurs occasions de vous exprimer, et c'est bien normal, compte tenu de votre connaissance du pays. Vous avez parlé d'un tournant dans l'histoire algérienne. Autrement dit, est-ce que, selon vous, on va assister à des changements espérés, attendus, ou est-ce que tout va changer pour que rien ne change ?
Bien, on connaît la formule, bien entendu. Oui, j'ai parlé de tournant en rapport avec les immenses manifestations monstres qui ont eu lieu en Algérie depuis bientôt un mois. C'est ça, le vrai tournant. C'est-à-dire l'apparition sur le devant de la scène publique de la jeunesse, mais pas seulement, mais aussi des classes moyennes, des classes populaires, des avocats, des juristes, personnel de santé, etc., etc., j'allais dire, de toutes les villes d'Algérie, donc des millions et millions de personnes qui ont manifesté contre le cinquième mandat décidé par Abdelaziz Bouteflika et qui avait déposé sa candidature. Il avait déposé sa candidature, il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, ces manifestants réclamaient ce retrait de candidature et donc qu'il n'y ait pas de cinquième mandat. Voilà le véritable tournant. Le véritable tournant, il est là. Avec aussi, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans la discussion, avec aussi le fait que ces immenses manifestations ont été pacifiques. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été et n'ont pas provoqué de violence. C'est pour ça que dans un de mes articles que j'ai écrit il y a une quinzaine de jours, un des premiers, j'avais parlé de révolution de velours. Parce que ça me faisait penser ce qui s'était passé dans les pays de l'Est, de l'Europe, dans les années 90 après la chute du mur, où on avait eu effectivement des manifestations, des millions de personnes qui protestaient jour et nuit et obligeant par conséquent à changement de système, à une sortie de système, tel qu'on a pu le voir dans les années 90. Donc c'est effectivement le terme que j'ai utilisé avec cette notion, disons, de manifestation non violente, ce qui ne signifiait pas, bien sûr, la volonté de rompre radicalement avec le système. Mais c'était le refus de la violence, en fait, de cette radicalité violente. C'est celle d'une radicalité politique, mais qui n'est pas une radicalité violente. C'est pas la même chose. Alors maintenant, évidemment, il faut voir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, etc. Mais moi, en tant qu'historien, ce qui m'intéressait de voir, c'est comment, 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, on retrouvait des manifestations immenses et festives, comme celles qu'on a pu voir dans l'été 62, au moment de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'était quand même...
Pour vous, on est à ce niveau-là, dans la mobilisation et dans l'envie aussi de...
Dans le rapport à l'histoire, dans la longue durée. Oui, je crois que c'était, et ça reste, disons, des manifestations telles que l'Algérie n'en a jamais connues. C'est-à-dire des manifestations où se mêlaient à la fois toutes les classes sociales, où se mêlaient aussi hommes et femmes, ce qui n'était pas le cas, par exemple, des manifestations de 90-91. En Algérie, il y avait eu des grandes marches. Mais là, il y avait les manifestations de femmes d'un côté, les manifestations d'hommes de l'autre. On se souvient en particulier des manifestations islamistes très puissantes à Alger en 90-91. Là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que on est dans une sorte de diversité, de mixité massive.
Donc vous diriez finalement que c'est la société algérienne dans sa diversité, dans ses diversités, y compris au niveau géographique, parce qu'on l'a vu, vous l'avez souligné, c'est dans toutes les villes du pays que les mobilisations se sont propagées finalement. Vous diriez, vous, que c'est bien la société algérienne dans toutes ses composantes, et en particulier évidemment au cœur de la jeunesse qui représente plus de la moitié, 50, rappelons quand même que...
Peut-être pas 50%, non, parce que c'est un peu exagéré.
Non, 54% de moins de 30 ans.
Ah, de moins de 30 ans, oui, parce qu'on dit toujours ça, de moins de 25 ans, ou je
oui,
sais quoi.
Mais moins de 30 ans, ça reste jeune.
Non, il y a la jeunesse, bien sûr, en Algérie, c'est évident. Mais je veux dire que la majorité de la population n'est pas entièrement jeune. Enfin, je veux dire, c'est important à dire. Parce qu'il y a aussi une population qui travaille, il y a beaucoup de salariés, beaucoup d'enseignants, beaucoup de personnel soignant, beaucoup de paysans, etc. Enfin, je veux dire, c'est une société diversifiée aussi. C'est pas que les jeunes, enfin, je veux dire, les jeunes sont un peu le fer de lance, de la contestation, c'est évident. Mais c'est ça l'élément très important. C'est aussi, je le dis, l'apparition dans la rue des classes moyennes. Et ça, c'est très important. Et qui avait été assez réticente dans les années 88-92, et que cette fois-ci, on a vu dans la rue. Je veux dire, au balcon, des immeubles qui applaudissaient, qui encourageaient, disons, les manifestants, etc. Et ça, c'est une jonction sociale qui est tout à fait considérable, qui est très, très importante, et qui met en danger, bien sûr, le pouvoir, le système tel qu'il existait jusqu'à présent, parce que ce sont des fractions de couches sociales qui aspiraient toujours au calme, à la stabilité, etc., et qui se sont engagés là. Moi, je pense que c'est ça qui est très important aussi.
Mais alors, on a quand même une question qui taraude un petit peu tous les commentateurs, les observateurs de cette situation. C'est que finalement, on a deux décennies marquées par l'empreinte du président Bouteflika, qui semblait incontournable, inamovible, et qui a déjà fait son dernier mandat, le quatrième, en étant totalement invisible. Et donc, on se dit, finalement, ce que voulait faire le pouvoir, c'était prolonger cette situation un mandat de plus. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, que ce qui paraissait installé depuis deux décennies, bien installé, ne passe plus et provoque une réaction quasi épidermique, avec effectivement l'utilisation des réseaux sociaux, qui n'existaient pas il y a deux décennies, et qui ont sans doute joué un rôle important, mais pas seulement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en 2014, lorsque Abdelaziz Bouteflika s'est présenté pour le quatrième mandat, déjà à cette époque-là, il était invisible. C'est-à-dire qu'il allait dans des meetings électoraux où c'était une photographie qui était montrée dans un cadre. En 2014.
Oui, absolument.
Stupéfaction des Algériens, évidemment. À l'époque, d'ailleurs, qui n'était pas spécifiquement contre la personne de Bouteflika. C'était pas ça la question. Mais c'était quand même extraordinaire de voir quelqu'un qui allait se faire réélire sans qu'on le voie et sans qu'il parle, sans qu'il marche évidemment. Donc c'était quand même absolument incroyable. C'était du jamais vu. Alors, les Algériens étaient habitués à l'exemplarité, disons, dans différents domaines. Mais là, en l'occurrence, c'était du jamais vu. Et puis, ils ont dit, bon, après tout, pourquoi pas, le quatrième mandat, bon, mais après, c'est fini, quoi. Il va falloir passer à autre chose, quand même. Hein. Il faut être...
Donc, être raisonnable.
Ah, ben oui, il faut être raisonnable, parce que c'est pas possible que l'Algérie soit représentée par une personne qui ne parle pas, quoi, qu'on ne voit pas. C'est pas possible, c'est un grand pays, l'Algérie.
C'est un grand pays.
Et donc, à partir de là, c'est passé. Mais la faute, entre guillemets, je dis bien entre guillemets politique, c'est de croire que ça allait encore se passer de la même manière au cinquième mandat. C'est-à-dire la photographie, les cadres, l'invisibilité, les lettres, la correspondance. Parce qu'effectivement, tout passait par des missives, etc.
Et par des messages.
Par des messages.
Lus à la télévision.
Lus à la radio, à la télévision, etc. Mais lui, on le voyait. Et les chefs d'État qui défilaient en Algérie n'étaient jamais vus avec le président. Ils étaient toujours avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, etc. Bon. Et là, ça passait plus. Là, ça passait plus parce que 5 ans avaient passé et puis là, non, c'était plus possible de continuer de cette manière-là, comme si rien n'était, avec un président invisible. Et donc, à partir de là, toutes les oppositions qui s'étaient manifestées avant, qui étaient nombreuses, il y a eu des grèves en Algérie, il ne faut pas l'oublier, il y a eu les grèves dans l'éducation nationale, qui ont été très importantes, des enseignants, la grève de tous les personnels de santé, les docteurs, les médecins, pardon, avaient fait grève l'année dernière, très longuement. C'était les étudiants aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un aspect de mobilisation sociale, de protestation qui traversait le pays déjà depuis des mois et des mois et des mois.
Qui préparait un petit peu le terrain,
oui,
peut-être,
oui,
à
fait,
l'émergence de ce mouvement.
Mais effectivement, la coagulation s'est faite dans un mouvement d'instantanéité qui résulte de quoi ? Eh ben, de l'annonce de la candidature, quoi. C'est le détonateur. C'est-à-dire qu'au moment où il dit « je suis quand... » Enfin, il dit...
On lui fait dire,
je suis candidat pour un cinquième mandat. Là, les gens sont descendus dans la rue. Et là, les réseaux sociaux, bien sûr. Là, bien sûr, Twitter, Facebook, les vidéos, la révolution numérique. Avec un aspect que je voudrais souligner, qu'on ne souligne pas beaucoup. Vous savez, les réseaux sociaux, bien sûr, mais la presse écrite en Algérie, la presse classique, pourrait-on dire, la presse imprimée, les grands journaux algériens, Liberté, Al-Watan, Al-Khabar, ouais. L'Expression, Le Quotidien d'Oran, etc.
Qui ont toujours un ton très libre.
C'était un ton très libre, très, très, je veux dire, contre le pouvoir, hein, pour dire la vérité.
Très critique,
avec les dessinateurs, les caricaturistes, etc. Il faut savoir une chose, et c'est la même chose partout hein, dans le monde, on ne prête pas assez attention à ça, c'est que toute cette presse classique est sur Internet. C'est-à-dire que
elle est accessible.
C'est une presse maintenant que les gens lisent sur Internet et que les jeunes n'achètent pas forcément dans des kiosques, mais ils lisent sur Internet. Et c'est cela qu'on n'a pas bien mesuré. C'est-à-dire qu'on disait, bon, grosso modo, il y a une presse écrite, mais dont les tirages baissent, son influence n'est pas très importante, etc. etc.
Oui,
la jeunesse ne s'intéresse qu'à Internet. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait la jeunesse sur Internet ? Ben, elle lit les articles de la presse, elle regarde les clips qui sont fabriqués par les télévisions étrangères, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette espèce d'étanchéité entre presse écrite ancienne et télévision ancienne et réseaux sociaux nouveaux, etc. Non, pas du tout. Maintenant, il y a une interpénétration de tout ça. Les gens vont partout où ils peuvent chercher des informations. Ils vont partout. Faire, entre guillemets, leur marché des informations. Et la presse écrite traditionnelle, qui existent sur Internet, ne sont pas simplement des sites hein, d'information, mais c'est la presse classique, hein, Quotidien d'Oran, El Watan, etc., eh bien, est très lue. Je veux dire, fondamentalement, elle est très lue.
Suivie.
Elle est très suivie. Et toutes les informations qui se sont déversées à travers cette presse classique ont permis de contourner la censure, ce qu'on appelle les médias lourds, la télévision, enfin, très contrôlée, bien sûr, la télévision officielle. Et donc là, on a assisté... Là, encore une fois, une coagulation, je veux dire, de la jeunesse et de toutes les couches sociales de la société pour dire, grosso modo, on ne peut plus accepter le cinquième mandat, ce n'est pas possible.
Alors, il y a effectivement le sentiment d'un débordement de cette société algérienne qui, d'un seul coup, se mobilise autour d'un mot d'ordre, qui n'est pas de cinquième mandat. En revanche, le pouvoir donne le sentiment d'être dépassé par la situation, et là on a une lecture, vous nous donnerez la vôtre, qui peut être quand même d'avoir le sentiment que le pouvoir algérien cherche à gagner du temps face à cette situation qu'il n'avait pas prévu anticiper et qu'il doit aujourd'hui subir. Mais l'interrogation que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut se passer à partir de l'annonce de cette non-candidature, le rejet, effectivement, du cinquième mandat a gagné, si je puis dire. Le mouvement a gagné une première... le slogan fédérateur a eu un impact sur le réel et le pouvoir a reculé. Mais maintenant...
Maintenant, c'est très difficile à dire. Ce qu'il faut déjà, c'est faire une photographie actuelle du pouvoir. C'est-à-dire pourquoi ce pouvoir a une espèce de recul en demi-teinte. Pourquoi ? Parce que les principaux piliers soutien du pouvoir algérien, progressivement, ont fait défection. D'abord, les anciens combattants, l'ONM, ça c'est très important, parce que dans l'imaginaire collectif algérien, la guerre d'indépendance joue un très grand rôle.
C'est, je sais pas si ceux qui ont contribué à la guerre d'indépendance.
Voilà.
Parce que maintenant, c'est encore vivant.
Il y a une grande méfiance vis-à-vis de ceux qui disent qu'ils ont été héros, pas héros, etc. Oh là là, vous savez, c'est toutes les polémiques qu'il y a là-dessus en Algérie et ailleurs. Il y a les enfants de Chouhada, bien sûr, de martyrs, etc. Les syndicalistes de l'UGTA qui ont fait défection, les juges, les avocats et l'armée. C'est-à-dire que Gaïd Salah, qui est général en chef d'état-major de l'armée algérienne, ne citait plus Bouteflika. Dans ses dernières déclarations, c'est fini, il ne parlait plus de cinquième mandat, alors que c'était un personnage qui était quand même très engagé pour le cinquième mandat il y a quelques semaines.
Qui a été interprété comme un signal.
Et ça a été interprété comme un désaveu, un signal, une mise en retrait, disons. Si vous additionnez tous ces cercles de pouvoir qui sont quand même importants, à la fois dans l'imaginaire collectif, et vous ajoutez en plus les chefs d'entreprise, dont certains sont qualifiés d'oligarques dans la presse, etc., et qui eux aussi... disait grosso modo, si on continue comme ça, on ne pourra pas faire des affaires, enfin, au sens classique du terme. Bon, ça vous fait quand même beaucoup de gens qui font défection. Beaucoup de gens qui font défection et qui laissent ce pouvoir algérien à nu, quelque part. Et donc, qui est obligé de manœuvrer en retraite. Il n'est pas à l'offensive.
Il est sur la défensive.
Il est plutôt sur la défensive. Mais attention, parce que... le système politique algérien mis en place dans ce pays existe depuis maintenant très longtemps, depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle. Donc c'est un système politique sophistiqué.
Qui a déjà fait preuve de résilience par le passé.
Oui, qui est capable, disons, de se retirer pour revenir. On l'a vu par exemple, je prendrai quelques exemples. Par exemple, on l'a vu en octobre 88, il y a eu des émeutes, une répression très violente, très dure, avec plusieurs centaines de morts. Et le pouvoir a reculé, je veux dire, avec la démission de Chedli Benjdid à l'époque, l'armée qui s'est retirée du comité central du FLN, l'apparition du pluralisme de la presse, en particulier en 89-90, le retour en Algérie des figures historiques de la révolution algérienne, qui en avaient été chassées, comme aussi Naït Ahmed, Ben Bella, etc., qui sont revenus en Algérie. Donc, il y avait par conséquent le sentiment que ça allait changer, que ça s'était desserré. Ça a duré comme ça.
L'étau
était
desserré.
Voilà. Donc, et puis, on a assisté aussi à l'émergence d'un courant de l'islam politique très puissant. C'est-à-dire que l'étau s'est desserré, c'est évident, mais en même temps, le courant politique alternatif, disons, qui s'est présenté
à l'époque dominant,
c'était le Front islamique du Salut qui avait remporté les élections municipales de 1990. Donc, il y a une grande méfiance, d'une grande interrogation, c'est-à-dire de la société. Qui à la fois se méfie de la façon dont ce système politique peut, entre guillemets, s'auto-réformer, entre guillemets, et en même temps, ça ne s'est jamais produit à ce point-là. Parce que quand même, un président en exercice en Algérie qui dit « je me présente » et qui se retire, à ma connaissance, ça ne s'est jamais produit, à ma connaissance.
On est donc dans une situation inédite qui justifie à la fois les espoirs, mais aussi un certain nombre de craintes que nous avons les uns et les autres voir ce grand pays déstabilisé. On en parlera dans quelques instants, juste après la pause. Merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», Aujourd'hui, nous sommes dans une émission un tout petit peu spéciale, si je puis dire, sur la situation en Algérie, avec nos invités, Benjamin Stora, historien, Anouar Ben Malek, écrivain et mathématicien que nous entendrons dans quelques minutes. Et puis, un peu plus tard, nous aurons Rosa Moussaoui, journaliste au quotidien L'Humanité. Alors, Benjamin Stora, nous en parlions à l'instant. On est dans une situation totalement inédite par rapport à l'histoire de ce pays. L'indépendance a déjà 60 ans. C'est un pays qui a connu beaucoup d'événements et des situations parfois dramatiques, comme la décennie noire et la guerre civile. Aujourd'hui, on a l'impression que, notamment chez les nouvelles générations, les souvenirs de la décennie noire s'estompant, il y a une demande de changement très forte. Demande de changement qui a été freinée, notamment pendant les quatre mandats d'Abdelaziz Bouteflika, par la crainte d'un retour en arrière et d'un retour. Certains craignaient le retour des islamistes au pouvoir, d'autres craignaient le retour de la violence politique, d'autres des débordements de l'armée. Bref, la peur a, si je puis dire, cimenté l'immobilisme. On semble s'orienter vers, une demande de changement qui transcende et dépasse cette peur. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le peuple algérien ne rentrera pas dans ses maisons, dans ses immeubles, tant qu'il n'aura pas obtenu le changement attendu?
Il y a une demande très forte de changement radical en Algérie, c'est évident, notamment là, vraiment dans la jeunesse, qui n'a connu que Bouteflika. Les gens qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans n'ont connu que lui, quoi, fondamentalement. Mais en même temps, il y a cet immense désir de changement, mais en même temps, encore une fois, avec une transition pacifique. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas, de déferlement de violence possible qui puisse exister. Alors sur ce que vous avez expliqué, ce que vous avez dit à l'instant sur le pouvoir algérien, qui a joué sur la peur de l'islam politique, sur la peur de la déstabilisation. Et on a vu, par exemple, le dernier premier ministre algérien, Ouyahia, qui expliquait, attention, l'Algérie, ça va finir comme en Syrie, il va y avoir la guerre civile, l'éclatement du pays, etc. Et c'était effectivement un argument, je veux dire, qui était avancé.
C'était les éléments de langage du pouvoir pour justifier le cinquième mandat.
Qui n'était pas non plus... C'était un argument du pouvoir, bien sûr, mais qui avait prise pendant tout un temps sur la société, parce que les gens ne voulaient pas non plus. Aller vers l'inconnu, vers les guerres, la violence, le chaos, etc. Donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné quand même. Parce que les histoires de printemps arabe, avec ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé en Syrie, en Égypte,
etc. Même les difficultés de la Tunisie aussi, qui a
voilà.
connu des situations
Donc c'est quand même des choses qui ont marqué la société algérienne, qui, ne l'oublions pas, étaient sorties quand même d'une décennie sanglante, comme on dit. Donc tout ça fonctionnait très bien, enfin ça fonctionnait du point de vue du pouvoir. Ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'a plus fonctionné, c'est que tous ces arguments-là, dans le fond, dans la société, la recherche d'une issue pour sortir de l'humiliation d'un cinquième mandat, c'est-à-dire d'un mandat porté par un président invisible et qui ne parle plus, l'a emporté sur toutes les autres considérations, l'a emporté sur tout ça. Parce que je ne crois pas qu'ils avaient peur ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas une question de peur, c'est une question de maturité politique. Mais là, la maturité politique, grosso modo, c'était de dire on ne peut plus avoir un président comme ça, ce n'est pas possible. Si on veut rentrer en modernité politique, il faut changer complètement tout ça. Donc c'est plus pour avancer que pour se barricader, en fait. C'est avancer vers la modernité, c'est-à-dire avoir plus de transparence, avoir des leaders beaucoup plus jeunes, des leaders... Beaucoup plus en phase avec la société algérienne.
Et
bien sûr, et non plus des gens qui ont 80 ans, se réfèrent, à la vieille histoire, etc. Il y a dans toutes les couches les plus profondes de la société algérienne maintenant, une modernisation sociale et culturelle et politique qui est très forte. On en a parlé tout à l'heure, les réseaux sociaux, la presse, les caricaturistes, la diaspora, l'immigration.
Les classes moyennes,
bien sûr, qui se sont appauvries aussi dans la crise économique. Il ne faut pas oublier cet aspect social, parce que les classes moyennes aussi, qu'on le veuille ou non, étaient toujours pour la stabilité, étaient toujours pour le refus du changement brutal, etc. etc. Donc le pouvoir pouvait s'adosser à toute une série d'outils, de classes, de facteurs, etc. C'est ça qui lui fait défaut. Avec la chute du cours du baril du pétrole, l'appauvrissement des classes moyennes, les départs en exil, disons, d'un certain nombre d'intellectuels, etc. On a toute une série de couches sociales qui progressivement lui ont fait défaut. Progressivement ont quitté, disons,
le soutien passif au régime.
Ça a quitté progressivement. Et Bouteflika et son clan se sont retrouvés assez seuls. Parce que même le FLN, qui est un instrument classique, disons, de pouvoir, même le FLN était ancré en crise. C'est-à-dire que le secrétaire général du FLN avait été débarqué il y a plusieurs mois. Le président de l'Assemblée nationale algérienne avait été débarqué comme ça, sorti de son bureau. Si vous additionnez tous ces éléments qui, à l'époque, étaient passés inaperçus, dans le fond, on disait, bon... Oui, mais c'était des éléments importants. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que le clan au pouvoir, disons, s'isolait de plus en plus. Vous savez, il y a eu des scènes absolument incroyables de députés qui s'étaient enchaînés à l'Assemblée nationale pour refuser cette espèce de coup d'État pour vider le président.
Le
président de l'Assemblée.
Non, c'est passé relativement
inaperçu. C'est passé inaperçu en France. Les gens n'ont pas prêté attention à ce genre d'événement, comme ils n'ont pas prêté attention à ce qui se passait, par exemple, dans des villes des Aurès comme Rentschla, où les gens manifestaient parce qu'il y avait des injustices. Etc. Enfin bref, je passe sur tous ces éléments, tous ces phénomènes, qui fait qu'à un moment donné, effectivement, eh bien, tout ça s'est coagulé et ça s'est transformé en une immense force politique, sociale et culturelle.
Alors Benjamin Stora, on va vous remercier d'être venu dans cette émission un peu spéciale. On accueille évidemment avec bonheur et plaisir Anouar Ben Malek, écrivain, mathématicien algérien. Je le disais, vous avez un point commun avec Benjamin Stora, puisque Benjamin Stora, lui, est né à Constantine, mais oui, vous avez fait vos études.
Non, mais j'ai passé mon enfance à Constantine.
Et votre enfance à Constantine, voilà.
Je me considère plus... comme Constantinois, comme Algérois.
Donc on peut consentir à une sorte de passage de témoin dans cette émission.
Voilà, et je dirais que j'espère qu'Anouar, il a lu mon livre Les Clés retrouvées.
Bien évidemment.
Sur mon enfance à Constantinois.
Les rues de Constantinois.
Voilà, comme on a à peu près le même âge, la même génération, les mêmes mémoires, on peut se retrouver dans une vision commune du rocher. Le rocher, c'est la ville de Constantinois.
Ça, c'est Constantinois.
Voilà.
Alors, c'était donc cette minute constantinoise. Alors, Anouar Ben Malek, merci d'être ici avec nous dans le studio de Radio Orient pour parler, comme nous le faisions depuis quelques minutes avec Benjamin Stora, de la situation en Algérie. Je repartirai de ce que disait à l'instant l'historien. Est-ce que vous avez l'impression que le détonateur de cette situation inédite, c'est le sentiment d'humiliation qui a submergé, semble-t-il, des millions d'Algériens au moment où ils ont appris que leur président allait s'engager vers un cinquième mandat?
Ce sentiment d'humiliation a commencé dès la fin du troisième mandat. Lorsque on a commencé à comprendre que Bouteflika allait se présenter pour le quatrième, il y a eu une espèce de sentiment de sidération, mais à ce moment-là, il était encore allié avec une espèce de pitié pour la santé du président.
Compassion.
Compassion, bref... Mais le cinquième, je veux dire, là a été la goutte de trop, je veux dire. Les gens se sont dit, ils ne vont pas oser. Or, ils ont osé. Et c'est une propriété des pouvoirs autocrates. Ils commettent toujours le pas de trop. Et ce pas de trop, dans ce cas-là, ça a été de négliger ce sentiment d'incrédulité qui commençait à monter et partagé unanimement par tous les Algériens. Ils ne vont pas oser, ils n'ont pas osé, ils ont osé. Et alors, on a entendu le Premier ministre Ouyahia traiter de fou ceux qui s'opposaient à ça. On a entendu le secrétaire général de l'UGTA menacer de sanctions disciplinaires les syndicalistes qui osaient s'élever contre le cinquième mandat. Et donc, à un moment, bon, il est toujours facile d'expliquer a posteriori des événements. Je crois qu'il y a ce sentiment d'humiliation, mais je crois qu'il y a aussi quelque chose d'inexplicable. À un moment, en Algérie, on est passé de la protestation d'émeutes à la protestation de peuples. Et ça, c'est miraculeux. Je veux dire, c'est pour ça que, nonobstant ce qui va se passer ensuite, il y a un moment pour les Algériens à apprécier. Pour la première fois, peut-être il y a une fois à l'indépendance, mais pour la première fois, l'Algérie a fait peuple. Toutes les couches confondues. Et il y a eu, devant ce mouvement, il y a eu une hésitation de l'armée. L'armée a compris que, pour une fois, ce n'était pas des manifestants ordinaires.
C'était pas marginal.
Voilà, c'était pas marginal.
Pas à la marge.
Et c'était vraiment profondément le peuple. Évidemment, comme l'a dit Benjamin Stora, le pouvoir a longtemps cru qu'il pouvait s'appuyer sur cette qui pour lui était une richesse, la peur de la répétition des événements de 90. Mais là, je crois que voilà, ils ont commis le pas de trop. Alors, appréciant ce moment-là, mais en même temps, le sentiment en Algérie est très mitigé parce que on sent bien que ce pouvoir qui a réussi à se la nommer depuis l'indépendance, en 62, jusqu'à maintenant, usera ses dernières cartouches. Il a commencé à les mettre en place. Le président Bouteflika, alors quand je dis président Bouteflika, j'entends par là le système qui s'exprime au nom du symbole Bouteflika.
Les gens qui sont là depuis 20 ans et qui dirigent le destin d'Algérie.
Voilà, c'est Bouteflika en lui, en
le
tant
clan.
Que personnage physique,
on parle d'un clan.
À mon avis, est tellement en mauvaise santé, affaibli, que voilà, il sert de symbole. Les photos qu'on nous montre, un monsieur, un pauvre monsieur sur une chaise, etc., sont des photos pour le show, mais elles ne veulent pas dire grand-chose du point de vue médical. Mais à partir de d'aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre conscience que le président essaye de répéter le scénario qui a déjà eu lieu dans un pays comme le Congo, etc. Unilatéralement, il décide de mettre à côté la Constitution, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'est pas un conseil qui mérite le respect des Algériens. Je veux dire, c'est une structure vide, etc.
C'est une chambre qui valide.
Mais quand même, ça représente la Constitution. Donc, et il a décidé de se prolonger son propre mandat. Sur les réseaux sociaux, vous avez des trucs extrêmement à la fois amusants et qui montrent que les gens ne sont pas dupes. Le président dit, d'accord, vous voulez pas de cinquième mandat, alors je prolonge mon quatrième mandat. En réalité, là, le clan est en train de se dire, comment faire pour sauver les meubles? Il se donne donc le temps une année sans limite précise. Et il a décidé au nom de quelle loi, etc. Moi, je dis, en pesant mes mots, ce que fait Abdelaziz Bouteflika et le clan qui est autour de lui, et on ne peut pas appeler ça autrement, un coup d'État constitutionnel, mais un coup d'État. Dans n'importe quel autre pays, un président qui déciderait de lui-même d'annuler les élections, de s'auto-prolonger son mandat, etc., serait considéré comme putschiste. Imaginez la chose en France. En Algérie, pour le moment, le piège est mis en place. Maintenant, je dis, comme on dit en Algérie, suivant le voleur jusqu'au pas de sa porte. Il faut, de la manière la plus urgente possible, puisqu'on parle d'une assemblée qui serait une assemblée d'ordre donc constituante, hein, je veux dire, sans que le mot ait été vraiment dit, il faut occuper ces places-là. Ce sera difficile parce que l'opposition n'est pas structurée, l'opposition est très divisée.
Elle est même plutôt déstructurée.
Déstructurée, elle a été extrêmement laminée par le pouvoir Bouteflika qui a une arme extraordinaire, la corruption. C'est terrible de le dire, mais beaucoup de dirigeants de l'opposition ont été achetés par le pouvoir. Ce qui fait que le pouvoir, là, à Baudir,
les islamistes.
Qui peut vous représenter? Pour le moment, les islamistes sont probablement embusqués. Ce sont des gens très malins. C'est la seule force réellement organisée en Algérie, puisque quelqu'un disait c'est la seule partie politique qui fait 5 meetings par jour. Donc, voilà. Donc, mais moi, je choisis d'être optimiste. Ce qu'on a vu dans les rues d'Alger, eh bien, c'est pour quelqu'un qui est déchiré par ce qui se passe dans le monde arabe, par tous ces printemps arabes qui sont devenus des hivers arabes terribles, l'Algérie, avec un peu la Tunisie, représente peut-être un espoir pour ce monde arabo-berbère, etc., qui est
traversé
par ces dirigeants, etc.
Qui est traversé par des crises multiples, et où effectivement le divorce entre les peuples et des dirigeants est souvent consommé.
Oui, là, vous le voyez par exemple le réflexe de Bouteflika. Bouteflika et le système Bouteflika agit comme si le pays leur appartenait. J'annule la constitution, de quel droit? Je dis, j'attendrai jusqu'à ce que le prochain soit élu, de quel droit? L'armée, il y a quelque temps, menaçait le peuple par la voix du général Gaïd. Vous savez qu'on dit que tous les pays ont une armée, sauf l'armée algérienne qui possède un pays. Et c'est un peu vrai. Je veux dire, voilà. Donc, à la fois, je suis ravi, et à la fois, je suis très méfiant parce que ce pouvoir a montré sa faculté d'adaptation. comment il a, par exemple, survécu aux émeutes de 88, ouais. comment il a réussi à utiliser les événements des années 90 pour asseoir encore plus son pouvoir. Voilà, tout ça doit faire en sorte que nous devons garder les yeux ouverts, mais en même temps s'apercevoir que bien utiliser ce formidable enthousiasme qui est né en Algérie peut mener peut-être à des changements importants.
Alors, Benjamin Stora rappelait tout à l'heure que pour les Algériens, ce cinquième mandat était en fait un bis repetita du quatrième, où déjà le président était invisible, où déjà c'est une photo dans un cadre qui avait fait la campagne. Et au fond, on est en droit de se poser la question, si ça n'est pas le président qui gouverne réellement l'Algérie, et surtout, est-ce que l'Algérie, qui est un pays extrêmement jeune, on le rappelait tout à l'heure, plus de 54% des Algériens ont moins de 30 ans, donc c'est aussi un pays qui est plein d'énergie, plein d'envie, de modernité, est-ce que le pays peut continuer à se payer le luxe d'être gouverné dans ces conditions d'absence de transparence, d'absence finalement de fonctionnement démocratique, au moment même effectivement où, on le voit, tous les régimes autoritaires sont un petit peu dépassés par les nouveaux outils de communication, par les nouveaux moyens de communiquer, et où la contestation, on peut le penser, ne va pas s'arrêter.
Oui, elle ne va pas s'arrêter. En même temps, un mot sur les médias d'État. Hier, donc j'apprenais par une dépêche de l'AFP que le président annonçait qu'il n'allait pas se représenter. Et donc immédiatement, je me suis branché sur une radio nationale, radio d'État. Ils annoncent, donc c'était à 19h, édition spéciale. Alors, je me dis, voilà,
il va y avoir quelque chose.
Édition spéciale, ils lisent le texte, trois journalistes lisent le texte du président. Et à la fin du texte, ils disent, fin de l'édition spéciale, la météo. Donc, il ne faut pas croire que les réflexes vont changer. C'est terrible. Je pense que là, il faut se rendre compte de la nature du pouvoir. Ne pas chercher des explications extraordinaires. C'est une explication médiocre. Il y a un président qui méprise profondément son peuple. Un détail qui, pour moi, est très frappant. Moi, j'ai été à un moment journaliste. J'ai tenu une chronique, etc. Savez-vous que le président algérien ne s'est jamais adressé à un journal algérien, n'a jamais donné d'interview à un journaliste algérien. Il en a donné plein par ailleurs. Il en a donné aux Qataris, etc. Enfin,
au monde entier.
Au monde entier, sauf aux Algériens. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les islamistes ont une expression qui, dans son cas, s'applique. Pharaon. Pharaon se considère comme supérieur à son peuple. Donc, le pas psychologique à faire est très important. Donc, mais autour de lui, il y a maintenant des intérêts très précis. Les hommes d'affaires tels que le patron du patron algérien, le frère, la famille Bouteflika, tout ça, ce sont des gens, c'est de la prédation pure et dure, qui vont, donc pour certains par exemple, le frère du président, du jour au lendemain, va probablement devenir plus rien, puisqu'il n'a pour seule légitimité que celle du président. Donc, à mon avis, là, ils, au pluriel, vont tenter de sauver les meubles et faire un peu comme au Congo. Rappelez-vous l'élection au Congo. Il y a Kabila qui présente son candidat. Il y a un deuxième candidat d'opposition assez modéré. Et puis, un vrai candidat d'opposition. Le vrai candidat d'opposition a un pourcentage extraordinaire donc, aux élections. Kabila s'entend avec le deuxième et nomme le deuxième président. Donc, ce qui risque d'arriver en Algérie, on voit bien d'ailleurs autour, le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est censé veiller aux élections. Ouais. Voilà, donc, la méfiance est vraiment de mise dans... Mais en même temps, voilà, je dis qu'il y a quand même quelque chose de potentiellement révolutionnaire en Algérie. Ne pas trop décevoir les gens, parce que ces manifestations pacifiques peuvent tourner au vinaigre si jamais les gens s'aperçoivent qu'on les roule, mais alors là, totalement dans la farine. Ce qui n'est pas à exclure.
Effectivement, on n'a aucune indication qui puisse rassurer sur la manière aujourd'hui dont la transition pourrait s'opérer, si transition il y a.
Il va probablement nommer quelqu'un du système, un Guédiri, un général Guédiri, qui se découvre révolutionnaire maintenant, hein, je veux dire. Ou ces gens, par exemple, de l'Organisation nationale de Moudjahidine, qui, seulement il y a une semaine, déclarent que maintenant ils ne soutiennent plus le président, parce qu'en réalité, il a dû y avoir des discussions, etc. Tous ces juges qui, maintenant, refusent de diriger les élections qu'ils étaient prêts à diriger avant. Donc, il y a des retournements de veste habituels, en cas de mouvement de important. Voilà, restant méfiant, et je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, réjouissons-nous de ce premier pas, que le président décide qu'il n'est pas si infaillible. Alors, je voudrais signaler aussi que pour croire un président, il faut avoir confiance en sa parole. Or, le président, première phrase, dit « Il n'a jamais été dans mon intention de briguer le cinquième mandat. » De quelqu'un qui a déposé un dossier, qui a fait campagne, qui a menacé les gens, je trouve que c'est assez extraordinaire.
Alors, c'est même, pour tout dire, extrêmement étonnant que le président... Alors même que les manifestations, les gens ont manifesté, sont descendus dans la rue justement parce qu'ils avaient vu qu'il était en mesure de se représenter et qu'il avait même déposé sa candidature, annonce qu'il n'en avait pas l'intention en réalité. Là, on doit avouer que si on n'est pas un peu expert en décryptage de la vie politique algérienne, on n'y comprend rien.
Bah, moi, je préfère l'appeler du mot le plus simple. Le mensonge, c'est tout. On ment à son peuple. Et quand vous lisez la lettre, j'ai l'impression que c'est lui qui a organisé les manifestations. Tellement le vocabulaire n'a plus de sens. Il dit « Merci de votre soutien à une nouvelle Algérie », etc. etc. On est quand même, on se dit « Le gars qui a dû écrire ça, il a dû vraiment piocher dans je ne sais quel dictionnaire. » C'est totalement, je veux dire, contre la réalité des faits. Et c'est en même temps une démonstration qu'on ne peut pas faire confiance aux mots prononcés. Il faut toujours se dire, la possibilité de mensonge existe. Et dans le cas de cette déclaration-là, a-t-il voulu dire, peut-être, si l'on commence à interpréter, que ce n'est pas lui qu'il voulait, mais que c'est son frère qui l'a poussé, parce qu'on dit, c'est pas de mon intention, il n'a jamais été de mon intention de me présenter, ou peut-être était-il, à ce moment-là, dans le coma.
En tout cas, on peut avoir cette interprétation, c'était une non-candidature obligée. On reprend dans un instant, merci.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Alors, nous sommes de retour dans l'émission « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient. Donc aujourd'hui, une émission un petit peu particulière parce qu'on a souhaité aborder la situation en Algérie, situation qui a connu... un retournement, enfin en tout cas un coup de surprise. On ne sait pas encore si ce sera un coup de maître, mais en tout cas la déclaration du renoncement à un cinquième mandat, qui ne veut pas dire que le président Bouteflika renonce au pouvoir à l'heure où nous parlons, mais en tout cas il renonce à l'élection présidentielle qui du coup a été reportée. Et donc à l'instant, Anouar Ben Malek nous disait qu'il considérait que c'était une forme de coup d'État constitutionnel, et ça faisait écho au propos de Benjamin Stora qui tout à l'heure nous parlait d'une situation inédite, où toutes les couches de la société algérienne se sont mobilisées pour dire non au pouvoir. On a Rosa Mouassaoui qui nous a rejoint, journaliste au quotidien L'Humanité. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe en Algérie selon vous, et surtout, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, je partage l'analyse d'Anouar Ben Malek. Dans l'adresse attribuée au président Bouteflika, il est question de report sine die de l'élection présidentielle, mais sans délai précisé. Il est question de renoncer à un cinquième mandat. En réalité, ça correspond à un prolongement du bail présidentiel de Bouteflika, à un prolongement à peu de frais du quatrième mandat. Et on voit bien comment son clan, le clan présidentiel, garde la main sur une éventuelle transition. Les hommes qu'il a nommés au poste de Premier ministre et de vice-Premier ministre, Nourdine Bédoui, l'ancien ministre de l'Intérieur, et Ramtane Lamamra, l'ancien chef de la diplomatie, ce sont des hommes du Sérail, ce sont des proches du clan présidentiel, des hommes du régime. On ne peut pas imaginer qu'une véritable transition démocratique puisse s'amorcer avec les mêmes hommes. D'autant que les Algériens, dans ces manifestations, ils n'exprimaient pas seulement le rejet du cinquième mandat, ils exprimaient le désir d'une rupture avec véritablement l'ensemble du système. Et là, on voit bien que la rue déjà réagit, puisque à Alger, il y a déjà une marée étudiante pour dire en fait non à ce prolongement du quatrième mandat, avec des slogans assez drôles comme ceci n'est pas un match de foot, non aux prolongations. Voilà, ce genre de slogans qui montrent que le peuple algérien refuse ce qui ressemble à une entourloupe.
Alors moi justement, ça me permet de vous poser une question à Anouar Ben Malek, et je la poserai également à Rouaza Massoui. Il y a un slogan qui est revenu dans les manifestations et qui est devenu un tout petit peu une sorte de point de ralliement, c'est « un seul héros, le peuple », qui semble s'adresser au pays elle-même, mais aussi à ceux qui ont fait la guerre de libération. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
En fait, ce slogan a été le slogan de la fin de la guerre d'Algérie. Le slogan était à l'époque « un seul héros, le peuple ». Et le fait que ce slogan se répète maintenant fait que les gens ont conscience en fait, de l'enjeu. C'est la véritable indépendance de l'Algérie. On s'est débarrassé du colonialisme, on ne s'est pas débarrassé des colons de l'intérieur. Voilà. Donc c'est un immense slogan qui, à un moment d'ailleurs, a servi en fait, à habiller la dictature du FLN and co, je veux dire, par des mots grandiloquents. Mais le peuple actuellement le reprend au vrai sens du mot. Un seul décideur, c'est le peuple. Et ça étonne beaucoup le pouvoir en place. Comment ces gens ont-ils osé défier le peuple quand le général-major, je veux dire, menace quasiment le peuple algérien? On se dit, mais sait-il qu'il devrait être aux ordres du pouvoir politique, qui lui devrait être choisi par le peuple? Donc, il y a aussi une révolution psychologique à faire par le pouvoir qu'il ne fera pas, tellement il est habitué à être obéi au doigt et à l'œil, je veux dire. Donc là, la suite va être extrêmement intéressante. Est-ce que, comme dit Rouaza Massoui, est-ce que ça va être une entourloupe de plus? Le risque est très grand. Est-ce que, malgré tout, les forces vives de la nation, c'est-à-dire ces jeunes, etc., arriveront à former une opposition crédible? C'est le grand enjeu en fait, de la période qui va s'écouler. Mais ne jamais accepter un seul moment la légitimité du pouvoir en place, un pouvoir qui balaye, qui a fait hier, il a non seulement balayé la Constitution, il a nommé un nouveau Premier ministre, il a nommé quelqu'un, un titre qui n'existe pas, vice-premier ministre. Puis voilà, donc, qu'est-ce que cela réserve? Moi, j'ai les plus grandes réserves vis-à-vis de ça. Voilà.
Rouaza Massoui, la demande de changement aujourd'hui en Algérie semble très forte. On ne sait pas encore si elle sera irrésistible au point d'obliger à un changement de régime. Mais d'ores et déjà, c'est ce que disait Benjamin Stora tout à l'heure, toutes les couches sociales de la société algérienne se sont mobilisées pour refuser un cinquième mandat et aussi pour réclamer des changements majeurs. Est-ce qu'on peut imaginer une transition pacifique, comme l'ont été les manifestants et les manifestations qui ont marqué le monde entier par leur dignité, par la capacité à mobiliser des masses populaires considérables dans le calme et sans violence? Ou est-ce qu'il faut craindre au contraire que le régime, incapable de porter un changement, provoque en retour une forme de réaction plus agressive de ce peuple qui veut le changement?
Je crois que les Algériens ont tiré les leçons à la fois de leur propre histoire, de cette transition démocratique avortée qui a suivi le soulèvement de 88. Ils n'entendent pas rééditer le scénario de la décennie noire. Ils ont tiré les leçons de ce qui s'est produit dans le sillage de ce qu'on a appelé les printemps arabes. C'est leurs voisins. Et eux, ils veulent dessiner leur propre chemin vers la démocratie. D'où la maturité qu'on a pu voir dans ces manifestations. Il faut savoir qu'au départ, les tenants du régime accusaient ceux qui protestaient de vouloir semer la déstabilisation, d'entraîner le pays dans le chaos, de vouloir fomenter des situations d'insécurité. Et par ce caractère pacifique, ce mot d'ordre de Silminia, de pacifisme, était vraiment clamé dans toutes les manifestations. Le peuple algérien dit à ses dirigeants, s'il y a basculement dans la violence, vous en porterez seul les responsabilités. Donc je crois que en fait tous les ingrédients d'une transition démocratique pacifique et apaisée sont réunis dans ce pays, et si ce n'est pas ce chemin qui est emprunté, ce sera évidemment la responsabilité du pouvoir algérien. Mais je voudrais revenir un peu en arrière sur la question que vous aviez posée sur la façon dont les Algériens se sont appropriés aussi leur histoire, des symboles historiques. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette jeunesse, c'est qu'elle a su retourner contre le régime ses propres armes. Au spectre de la déstabilisation, elle répond par le pacifisme. Au spectre de l'ingérence étrangère, elle répond par un nouveau patriotisme. Et longtemps, le FLN s'est revendiqué de la légitimité historique pour imposer ses choix au pays. Cette jeunesse-là, elle lui répond en retournant ces armes-là contre lui, en se réappropriant une histoire qui a été trop longtemps livrée à la falsification, aux instrumentalisations. On a vu par exemple des jeunes manifestants brandir des portraits de Larbi Ben Mehdi ou de Aban Ramdan. Ce sont eux, ces deux hommes-là, qui ont jeté les bases d'une république algérienne démocratique et sociale. Ils ont ensuite été assassinés, l'un par les Français, par l'armée française, et l'autre par ses propres frères d'armes. Donc je partage vraiment ce que dit Anouar Ben Malek sur l'aspiration à une nouvelle indépendance, à se réapproprier une révolution qui a été confisquée et dévoyée. Donc il y a bien à la fois cette aspiration démocratique, mais aussi une aspiration à la justice sociale. Les années Bouteflika, elles ont été aussi celles du libéralisme, des privatisations, de la dilapidation de la rente pétrolière dans des chantiers d'infrastructures pharaoniques. On peut citer aussi la Grande Mosquée qui a coûté près de 3 milliards d'euros. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté de dessiner un autre projet de société, et on voit bien que ce pouvoir usé jusqu'à la corde est incapable de répondre aux aspirations de cette jeunesse. Il y a aussi une dimension de fracture générationnelle. Ce qui est intéressant ensuite, c'est que jusqu'ici, ce sont les classes les plus fragiles, les chômeurs, les jeunes issus des classes populaires, qui ont assumé les luttes sociales, les luttes démocratiques. Je pense à ce qui s'est produit en 2001, au moment du printemps noir, avec une répression féroce contre cette jeunesse qui demandait que cesse la rogra, le mépris des dirigeants pour le peuple. Le bilan, c'était 127 morts et plus de 5000 blessés. Donc c'était vraiment cette jeunesse des milieux populaires qui était mobilisée. Je pense aussi aux chômeurs de Ouargla qui se sont mobilisés en 2009, et puis à tous ces jeunes émeutiers qui se mobilisaient pour un logement, pour l'emploi, pour des services publics. Aujourd'hui, on voit que ces franges-là de la société sont rejointes par des classes moyennes éduquées, par d'autres classes sociales. Et ça, c'est aussi assez intéressant. On voit que la base sociale de la contestation s'est considérablement élargie.
Oui, c'est ce que nous disait tout à l'heure Benjamin Stora. Il dit notamment que les classes moyennes ont basculé du côté de la manifestation et se sont engagées dans une mobilisation inédite à l'échelle du pays. Et c'est vrai qu'on retrouve dans les propos de Anouar Ben Malek sur la nouvelle indépendance ce que disait aussi tout à l'heure Benjamin Stora. Donc vous êtes vraiment d'accord sur l'analyse, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi important qu'au moment de l'indépendance. Il y a une mobilisation d'une telle ampleur que c'est comme une demande de redémarrage. C'est comme si on souhaitait effectivement reconstruire le pays sur de nouvelles bases. La question, c'est comment et sur quelle base, justement, l'Algérie, qui aujourd'hui semble un petit peu en panne d'avenir à cause du régime et des dirigeants qu'il n'a pas choisi, comment est-ce qu'on organise ? Est-ce qu'il faut une nouvelle constitution ? Il faut un véritable multipartisme ? Bon, la presse algérienne, elle est libre quand même, elle est restée libre malgré les soubresauts du régime. Comment est-ce qu'on va réussir justement à aller vers cette transition démocratique selon vous ?
Le chemin est pavé d'embûches en fait. Pour la presse par exemple, c'est vrai que la presse écrite bénéficie d'une certaine liberté d'expression, réduite lorsqu'il s'agit de certains sujets, mais quand même, quand on la compare à d'autres pays arabes, il faut pas la négliger. Cependant, les grands médias, la télé nationale, par exemple, n'est absolument pas concernée par le renouveau. La télé nationale, elle est muette au point que ça en devient ridicule.
Gênant.
Gênant, même les journalistes commencent à se révolter contre ça. Mais il y a aussi l'apparition des nouveaux médias aux mains des grandes fortunes. Il y a de grandes télévisions maintenant avec beaucoup d'argent qui souvent, comme elles ont bénéficié d'accointances financières avec le régime, sont, en fin de compte, soutiennent le régime et parfois le soutiennent de manière encore plus brutale que la télé nationale. La télé nationale se tait, tandis que cela insulte et parfois sont des pouces au crime quand il s'agit de questions liées au comportement des femmes supposées trop libres, etc. etc. Donc, les médias sont libres jusqu'à un certain point. Le seul vrai média en Algérie reste quand même la télé qui, elle, échappe au contrôle démocratique. Donc, tant que la télé ne donnera pas la parole à d'autres expressions que celles du pouvoir, on peut douter de l'impact de cette liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le grand défi. Bien malin, celui qui pourrait dire, voilà ce qu'il faut faire. À mon avis, il faut que la mobilisation continue, qu'elle ne s'arrête pas, qu'elle reste aussi pacifique, mais en même temps qu'elle dise au pouvoir, nous ne sommes pas dupes. Et là, il faut qu'il y ait une organisation de cette opposition. Parce que dès qu'on parle d'assemblée, etc., le pouvoir est extrêmement fort dans la manière d'organiser les débats, dans la manière de désigner, etc. Je suppose, d'après ce que je crois comprendre, que l'Hadar Brahimi sera probablement, puisqu'il a été reçu par le président, la personnalité qui va être choisie pour représenter, pour diriger cette conférence, etc. Donc tous ces gens-là, quelle que soit leur réputation, sont des gens du sérail. Et il est très facile pour eux de confondre l'intérêt patriotique et leur propre intérêt. Tous ces gens-là vont vous jeter à la figure le bien de l'Algérie, etc., etc., en oubliant de dire que le bien de l'Algérie est confondu avec le leur. Le poids des milieux d'affaires corrompus est extrêmement fort en Algérie. Des fortunes immenses se sont créées un peu à la manière des oligarques en Russie. Quand un Haddad, qui n'était rien, en très peu de temps est devenu un homme extrêmement riche et qu'à sa suite, une classe prédatrice s'est formée, ça, ils vont jouer leur rôle. Parce qu'eux savent que leur fortune dépend des commandes d'État, de tout ce processus qui arrive à faire passer de l'argent des caisses de l'État aux caisses privées, sans que le résultat sur le terrain soit très, de qualité.
Très positif.
Les autoroutes, il y en a, mais elles sont souvent de mauvaise qualité. Tout ça, il y a cette fameuse mosquée que le président inaugure à chaque fois. Cette mosquée qui est gigantesque, qui n'est pas terminée, et qui, semble-t-il, a des problèmes structuraux, a été inaugurée, je ne sais pas, 2 à 3 fois. On amène à chaque fois le président sur sa chaise roulante, et il inaugure je ne sais pas quoi, et puis il repart. Donc ça, le pouvoir n'a pas peur du ridicule. Parce que pour lui, le ridicule ne tue pas. Le problème, c'est que ça tue petit à petit l'âme d'un pays, ce genre de ridicule.
Et même son économie, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que la crise économique a aussi frappé en Algérie et qu'il y a aussi des motifs de mécontentement liés à l'absence de travail, au salaire insuffisant et à tout un tas de...
Bien entendu, je veux dire, quand vous n'avez comme objectif que des dépenses de prestige ou des commandes clés en main faites, par exemple, par des groupes internationaux, etc., que... Il n'y a pas d'industrialisation du pays, mais au sens au sens de création d'emplois, etc. Les classes moyennes et les classes populaires ont vraiment subi le coup d'un appauvrissement général. Je me rappelle d'un reportage qui disait que l'Algérie était un pays pauvre à milliards. Voilà, c'est énormément d'argent, mais dont on ne voit pas, en fait, le on sait qu'en Algérie, on ne peut avoir de l'argent que d'une manière illégale. La corruption est devenue un système qui gangrène profondément cette corruption n'étant pas seulement financière. La corruption d'allégeance vous permet d'avoir des postes, etc. etc. Tous ces députés qui vivent au crochet du peuple et qui n'ont aucun rôle. Le Sénat, par exemple, en Algérie, est vraiment une espèce d'assemblée de rentiers dans le seul but est d'applaudir le président. C'est souvent triste à pleurer, mais malgré tout, cet soulèvement du peuble est quelque chose d'extrêmement réjouissant. Alors, même si ça ne va pas durer, moi, je veux en profiter.
Alors, merci en tout cas à Anouar Ben Malek d'avoir accepté de répondre à nos questions. Rosa Moussaoui, un dernier mot, puisqu'on va vers la fin de l'émission. J'aimerais avoir peut-être votre réaction. Alors, on sait que la relation entre l'Algérie et la France est une relation fusionnelle, passionnelle. Si la France ne dit rien, elle est complaisante. Si elle s'exprime trop ou trop fortement, elle est dans l'ingérence et elle peut aussi être instrumentalisée par le régime. Donc, est-ce qu'on est dans le droit d'attendre que la France accompagne ce processus de démocratisation, peut-être de manière volontariste?
Je crois que la France, elle n'a pas son mot à dire. Édouard Philippe l'a dit, en contredisant d'ailleurs son chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, qui appelait à faire en sorte que le processus électoral aille jusqu'au bout. Et puis, je crois que c'est intéressant de souligner aussi comment on a une forme de discrétion vis-à-vis de ce mouvement populaire extraordinaire et la façon dont bruyamment aujourd'hui les porte-parole du gouvernement valident le dispositif qui est proposé aujourd'hui par le clan Bouteflika. Je crois qu'il y a aussi des intérêts économiques énormes en jeu. Hein. La France est l'un des premiers partenaires commerciaux de l'Algérie. Il y a là aussi des intérêt enchevêtré, peut-être que c'est aussi ça qui joue, mais je crois qu'il y a une histoire qui fait que le peuple algérien, effectivement, ne veut ni des ingérences françaises, ni des ingérences occidentales, et qu'il faut respecter sa volonté de reprendre lui-même son destin en main et de définir lui-même son propre chemin.
Eh bien, ce sera le mot de la fin et un très joli mot. Effectivement, on souhaite au peuple algérien de reprendre en main son destin et on aura sûrement d'autres occasions d'en reparler. Je remercie tous nos invités, Benjamin Stora, Anouar Ben Malek et vous, Rosa Moussaoui. C'était « Et si on en parlait » sur Radio Orient. À la semaine prochaine.
Et si on en parlait ? Du temps ? De l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.